I tekst letu Esil Tolaio Epaipelini.
Dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japheth. Nous voulons prier, nous puissions avoir des cœurs apaisés et avoir des oreilles pour entendre ce que le Seigneur veut dire. Il est dit que Noé obtint la faveur de l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit Noé trouva grâce aux yeux dans sa génération. Et il conduisait sa vie. Il conduisait sa vie de manière juste, pourtant dans une génération qui était perverse et corrompue, cette génération qui avait oublié Dieu. Jésus en parle, lui. Il dit que le temps de Noé était une époque où chacun faisait ce qu'il voulait sans chercher la volonté de Dieu. Et il est même Jésus dit que les hommes se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage sans se préoccuper de savoir ce que Dieu veut, quelle était la volonté de Dieu. Et les fils de Dieu ont commencé à se marier comme eux ont voulu, et non plus selon la volonté de Dieu. Et leur vie ne plaisait pas aux yeux de Dieu. Les gens vivaient pour eux-mêmes. Considérez le temps à l'époque où Noé vivait. Et on pourrait dire les gens ont jeté par-dessus bord la foi. Enoch était le grand-père de Noé. Enoch était un homme qui craignait Dieu. Il est dit dans la parole que Enoch ne connut pas la mort, mais qu'il fut repris par Dieu. Et le père, le grand-père de Noé était Mathusalem et il a atteint presque 1000 ans. Mais ces hommes vivaient, marchaient avec Dieu. Mais on peut dire, la foi a été à l'époque alors jetée par-dessus bord, abandonnée. Et la foi, vous savez, n'est pas quelque chose qui se passe d'une génération à l'autre. Si toi, tu sers le Seigneur, alors ton enfant, tes enfants doivent aussi faire le choix de suivre le Seigneur. Sinon, ils deviendront une génération qui suivent le diable. Une personne qui a la foi, qui connaît le Seigneur, ne donne pas naissance à un enfant chrétien. L'enfant aussi a besoin de se repentir. Donc, les générations d'avant Noé ont suivi le Seigneur, mais très rapidement, ils ont abandonné la foi. Et un des signes, c'est qu'ils ont commencé à se marier comme eux l'entendaient, comme ils voulaient. Les archéologues continuent aujourd'hui à creuser et à découvrir des cités qui existaient à l'époque. Et les archéologues ont même découvert, par exemple, dans leurs excavations, comment les femmes se maquillaient déjà à l'époque. Beaucoup de choses qu'on découvre, que les archéologues découvrent, sont de manière spectaculaire, très similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc cette génération avait tourné le dos à Dieu, était tombée dans l'apostasie et s'était rebellée contre Dieu. Et Dieu a dit plus tard à Moïse, Ma colère ne sera pas retenue trop longtemps, parce que à un moment donné, la colère de Dieu se répand sur la génération corrompue. Et nous savons, nous lisons comment Noé a prêché. Il leur a enseigné la voix de l'Éternel, mais sa génération a refusé d'écouter. Et Dieu a alors parlé à Noé en lui disant, « Noé, je veux que tu construises une arche. » Et selon ce que l'on sait, c'est la première fois qu'un tel bateau était construit. À l'époque, seuls de petits bateaux étaient construits, rien d'une telle taille, d'une telle grandeur. Et Dieu a dit à Noé, construis un bateau, construis une arche. Et parce que Dieu a prédit qu'il détruirait la terre avec un déluge. Et l'histoire ou la tradition nous dit que Noé était également le chef d'une grande ville. Et il est très probable ou évident que Noé était un homme aisé, un homme riche. Non seulement lui, mais de pouvoir construire un tel bateau avec ses trois garçons. Et ce n'est pas seulement lui et ses fils qui ont construit le bateau, mais il a sûrement employé des milliers de personnes. Alors imaginez juste les salaires, l'argent qu'il a fallu pour construire un tel bateau, pour payer les salariés, et non seulement pour quelques jours, mais pour une durée de 120 ans. Donc il les employait et les a payés pour qu'ils construisent l'arche avec lui. Et la Bible nous donne les tailles exactes de ce bateau. Alors je vais juste donner une comparaison de quelle taille faisait ce bateau, juste pour illustrer, pour que nous comprenions. Donc, en hauteur, c'est l'équivalent de la hauteur de cet auditorium qui est 15 mètres de hauteur. Et il est dit que le bateau avait 3 étages, 3 niveaux. Et il y avait un système de ventilation au sommet du bateau pour ventiler le bateau. C'était une tâche énorme de construire un tel bateau. Il dit que la longueur aurait été l'équivalent de cet auditorium plus la moitié, donc une fois et demie la longueur de ce bâtiment dans lequel nous tenons, donc 150 mètres. Alors imaginez-vous quel travail et quelle tâche cela représentait. Et donc, au premier étage, ou en bas du bateau, il y avait des rochers. Donc, des ancres qui étaient faites en pierre. Donc, des rochers qui, avec un trou sur lequel on attachait pour stabiliser le bateau. Et le bateau a été fait avec un bois qui, en fait, était relativement léger. Et les experts disent qu'il y avait au bas du bateau des rochers pour lester, pour stabiliser le bateau. Et ces rochers, on en a retrouvé certains dans les montagnes. De l'Ararat. Donc ces rochers étaient utilisés comme ballast pour stabiliser, pour résister, pour donc stabiliser le bateau face au vent violent de la tempête. Et depuis là où l'arche a été construite, jusqu'à l'endroit où l'arche s'est posée à la fin du déluge, il y a environ 500 milles, ou miles, équivalent à 1,6 km. Et si ce bateau n'avait pas ses ballasts, si ce bateau aurait chaviré s'il n'avait pas eu ses rochers pour le stabiliser. Imaginez les vagues et la pluie et l'inondation du déluge. Alors, si les vagues se fracassaient contre le bateau, alors ces ballasts et ces poids ont préservé le bateau, l'empêché de chavirer. Et même les bateaux qui sont construits aujourd'hui, les paquebots ou les grands bateaux, reprennent le design ou la forme de l'arche de Noé. Donc, le modèle que Dieu a donné à Noé en disant, Noé, voilà la forme et voilà les mesures que tu dois suivre pour construire cette arche, alors ce modèle est encore même aujourd'hui repris pour construire des grands paquebots. Et Dieu a dit à Noé, prends tous les animaux, même les animaux impurs, sont rentrés dans l'arche, et par pair, par couple. Donc les animaux purs, donc ils devaient prendre 7 couples. C'était un bateau tellement énorme qu'on estime qu'il pouvait contenir facilement 7000 couples ou espèces d'animaux et d'oiseaux. Donc Dieu a donné les plans à Noé en disant « Fais ce que je te montre. » Et il est dit dans la Bible que l'arche était faite en bois résineux, mais dans certaines versions il est dit en laminé. Donc comme cet auditorium où il y a une couche de bois après l'autre et cela permet de construire une structure aussi dure que le métal. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a utilisé le goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ce goudron était comme une étanchéité pour empêcher l'eau de rentrer. Et alors, il y avait aussi des compartiments dans l'intérieur du bateau, de différentes tailles aussi pour les oiseaux. Et ces compartiments permettaient aussi de renforcer la structure du bateau à l'intérieur. Donc Dieu lui-même a donné les plans à Noé en disant « Noé, tu vas construire cette arche selon ce modèle, selon ses instructions. » Et encore aujourd'hui, on utilise même ce modèle et la manière de construire qui a été utilisée pour l'arche est encore utilisée aujourd'hui. Et quand Dieu a mis Noé dans l'arche, même après que Noé soit rentré dans l'arche, Dieu a retenu la pluie pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, la pluie a commencé à tomber. Et le ciel est devenu sombre alors que l'eau est tombée, la pluie est tombée. Mais il dit aussi que l'eau est venue du bas, des sources souterraines, jusqu'à ce que l'eau arrive jusqu'au sommet des montagnes. Dieu avait dit à Noé aussi de faire des provisions et de stocker de la nourriture car il allait être enfermé. Et il a été enfermé dans cette arche pendant plus d'un an. Et il est dit que Noé est rentré dans l'arche alors qu'il avait 600 ans. Et à la sortie de l'arche, il avait 601 ans. bien que tous les animaux ont obéi pour rentrer dans l'arche, nous savons qu'aucun des autres hommes n'est venu pour se réfugier dans l'arche. Même ceux qui avaient aidé Noé à construire l'arche ne sont pas rentrés dans l'arche. Et on peut se poser la question et se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Mais en étant ici, à la mission, je peux comprendre qu'il en soit ainsi. Regardez, considérez l'école ici à la mission. Regardez et considérez tous les élèves qui sont passés à la mission. Toutes ces années, plus de 13 années, ces élèves qui sont passés par l'école, et une fois qu'ils ont fini l'école, ils vont et ils partent dans le monde. C'en est la même chose que ces hommes de l'époque de Noé qui ont entendu la prédication, qui ont entendu l'évangile pendant tant d'années et qui pourtant ne sont pas rentrés dans l'arche. Même dans notre pays, combien de nos contemporains vont à l'église, vont dans les écoles chrétiennes, et pourtant, après un certain nombre d'années, ils ne vont plus à l'église. Ceux qui ont refusé de rentrer dans l'arche. Imaginez, c'était sa propre famille, c'était les enfants de ses frères et sœurs. Et pourtant, bien qu'ils étaient la famille de Noé, ils ne sont pas rentrés dans cette arche. Jésus a dit lui-même, au retour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, il en sera comme au temps de Noé. Et comme je l'ai dit, dans les monts Ararat, en Arménie, là où l'arche s'est posée, c'était l'époque où j'ai visité l'Arménie, c'était le centenaire du massacre, du génocide arménien, lorsque les Turcs musulmans ont massacré 1,5 million d'Arméniens chrétiens. Et on nous a montré l'endroit où tant d'Arméniens ont été massacrés et tués. Et on nous a expliqué, montré comment les Arméniens chrétiens ont été massacrés, crucifiés. Et c'est dans cette région, dans ces régions des monts, des montagnes, du mont Ararat, que l'arche s'est posée. Et le mont Ararat est le plus haut, la plus haute montagne de cette région. Et lorsque l'arche s'est posée, il est dit que Noé a envoyé un corbeau pour voir si la végétation avait repoussé, si la terre était sèche. Mais le corbeau s'est enfui et n'est jamais revenu vers l'arche. Vous savez pourquoi ? Un corbeau est un charognard, il aime la chair, même la chair pourrie. Et on dit que les corps et les cadavres étaient probablement partout sur la surface de la terre. Vous pouvez imaginer les carcasses de bétail, de chevaux, de toutes sortes d'animaux. Et alors les corbeaux, vous pouvez penser que c'était un festin pour eux. Et la Bible nous dit qu'une semaine plus tard, Noé a repris une colombe et l'a relâchée. Et la colombe est revenue après un certain temps, est revenue vers Noé. Mais la terre n'était pas sèche, et alors il a attendu une semaine de plus et il l'a relâché à nouveau. Et quand la colombe est revenue la deuxième fois, et elle avait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Et alors Noé a su que les eaux étaient descendues, que les eaux du déluge avaient baissé. J'ai déjà raconté comment, dans en 1945, les pilotes russes avaient survolé cette région et comment certains pilotes de l'armée russe ou de l'époque de l'URSS avaient signalé à leur commandant qu'ils avaient repéré une forme de bateau dans ces montagnes qui faisait partie de l'URSS à l'époque. Et comment les autorités ont voulu cacher cela en disant non, il ne faut pas que les chrétiens en sachent, en prennent connaissance. Et cette chaîne de montagnes, Mont Ararat, est une chaîne de montagnes bien plus élevée même que les montagnes d'Europe. Et les sommets de ces montagnes sont couverts de neige éternelle. Et on dit que même il faudrait 4 années de sécheresse pour faire fondre la glace sur les sommets. Et donc, à l'époque de l'URSS, le régime communiste de Russie ont couvert et ont fermé cette région. Mais les autorités turques, aujourd'hui, surveillent cette région, puisque cette région aujourd'hui fait partie de la Turquie. Même si il y a des rapports aujourd'hui d'un homme et de son fils qui auraient découvert cette arche. Et alors que nous étions en Arménie, nous avons été logés dans un immeuble où nous étions au 13e étage. La personne qui est venue nous chercher à l'aéroport est venue avec une grosse voiture américaine, grosse voiture, une Cadillac très haute. Et alors nous sommes montés dans la voiture. Et depuis la voiture, alors qu'on nous conduisait, nous pouvions voir les montagnes du mont Ararat. Alors je vais arrêter de parler. Revenons à notre histoire où Noé, il est dit que Noé avait trois fils. Et ses fils étaient mariés, avaient 3 femmes. Quelle autorité que Noé a dû avoir de pouvoir transmettre à ses fils la crainte de l'Éternel, à ses fils et ses belles-filles, pourtant dans une génération perverse et corrompue, avec ses moqueries de gens qui ont dû se moquer d'eux en disant « mais quelle folie de construire un tel bateau !» Mais jusqu'à ce que Dieu dise à Noé, « Noé, entre dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. » Et une fois qu'ils étaient tous à l'intérieur, c'est Dieu qui a fermé la porte. Nous, en tant qu'humains, facilement, nous pouvons avoir de la sympathie pour nos enfants, même pour des enfants que nous pouvons voir. Nous voyons nos enfants vers le chemin de l'enfer. Et plutôt que de s'opposer ou de reprendre nos enfants, alors nous avons le risque de suivre l'enfant dans son chemin de perdition. Et Noé avait une telle influence sur sa famille que même sa femme, ses fils et ses filles ont suivi Noé. C'étaient de bonnes épouses. Et ils disent que c'est Dieu qui referma la porte derrière Noé. Et sûrement que d'autres sont venus pour crier, demander de l'aide, ont frappé à la porte. Et ainsi, c'est Dieu lui-même qui a refermé la porte au point que c'était impossible pour Noé d'ouvrir, même si sa famille, propre famille, est venue et frappée à la porte, demander de l'aide, mais Dieu avait fermé la porte. Parce que Dieu avait décidé de détruire la terre. Il a même dit que Dieu a dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Et toutes les rivières de la Méditerranée autour, toutes ces mers ont monté en niveau au point que ce n'était qu'une mer, qu'un océan. Alors imaginez-vous ceux et même celles qui étaient enceintes sont sûrement montées au sommet au fur et à mesure des montagnes et l'eau est montée au point où tous ont péri. Une fois quelqu'un m'a dit, je me demande ce qui s'est passé pour Sem, Cham et Japhet. Parce que Dieu a choisi Sem pour continuer à enseigner comment servir Dieu, comment adorer le vrai Dieu. Et les descendants de Sem, le peuple dit israélite, Abraham était un descendant de Sem. Et Dieu a choisi le peuple, les Juifs, pour être un exemple et pour montrer au monde sa puissance, jusqu'à ce que Jésus vienne et soit crucifié par eux. Et ils ont perdu ainsi l'Évangile. Et le peuple d'Israël était dans le pays de Canaan. Et Cham était l'ascendant de Canaan. Et les descendants de Japhet sont les peuples principalement d'Europe. Et donc nous savons comment Cham n'a pas respecté son père, comment il s'est moqué de son père. Parce que Dieu avait dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu aies des jours heureux, des jours bénis. » Et donc certains racistes blancs disent « Ah, mais les Noirs sont les descendants de Cham. » Mais nous n'avons aucune preuve d'une telle affirmation. Il n'y a pas de vérité en une telle affirmation que les Noirs sont les descendants de Cham. Mais quand la nudité de Noé a été révélée dans cet incident, nous lisons que Sem et Japhet ont reculé, ont marché à reculons pour couvrir la honte de leur père. Mais nous lisons que Cham, lui, s'est moqué de son père. Et Noé, après s'être réveillé ou s'être été conscient, alors il a maudit son fils, Cham. Et c'est Canaan, était, les peuples de Canaan étaient donc les descendants de Cham. Souvenez-vous, Canaan était le fils de Cham. Et pourtant, plus tard, Dieu a donné l'instruction à Abraham, n'ait rien à voir avec les Cananéens. Et ceux qui affirment que les Noirs sont les descendants de Cham n'ont aucune preuve d'une telle affirmation. Dieu, contrairement à ce que certains disent, Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Souvenez-vous que lorsque Jésus portait la croix pour être crucifié, avant d'être crucifié, l'homme qui a été choisi pour porter cette croix et pour l'aider était un Africain. Alors, souvenez-vous, ce n'est pas une malédiction, c'est bien au contraire une bénédiction d'avoir pu soutenir et aider le Seigneur Jésus à ce moment-là. quand Hérode a voulu reprendre la vie, a tué Jésus, l'enfant, c'est à ce moment-là que Dieu a ordonné à Joseph et à Marie d'emmener Jésus en Afrique. Quand il l'a emmené en Égypte, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique a permis de sauver Jésus, l'enfant Jésus. Et ils sont restés en Afrique jusqu'à ce que Dieu dise à Joseph, « Maintenant, tu peux rentrer et tu peux retourner dans ta maison, retourner en Israël. » Alors souvenez-vous aussi de l'histoire, lorsque Philippe, Dieu lui a demandé de quitter Samarie pour aller à la rencontre du ministre des Finances de l'Éthiopie. Et c'est ainsi que l'Évangile est rentré en Afrique, en Éthiopie. Mais nous savons que l'Éthiopie est devenue le deuxième pays chrétien. Même les dirigeants de ce pays sont devenus chrétiens. Et cela me fait souffrir quand j'entends les Africains dire « Ah, mais l'Évangile, le christianisme, c'est pour les Européens, c'est pour les Blancs, c'est pas pour nous Africains ». Non, ce n'est pas la vraie. Dans les premiers qui ont accepté l'Évangile, il y avait les Africains. C'est donc pour moi une souffrance de voir des gens qui ne réfléchissent pas et qui ne considèrent pas la réalité de l'Évangile. Donc, c'est difficile d'entendre les Africains dire « Ah, mais l'Évangile, c'est pour les Blancs, c'est l'Évangile d'un homme blanc ». Alors je préférerais, quand de telles personnes disent cela, qu'ils ferment leur bouche et qu'ils n'affirment pas une telle chose sans réfléchir avant de dire une telle chose. Et c'est ce même genre de personnes qui affirment de telles choses, qui pourtant ont la cigarette à la bouche et vont acheter leur liqueur. Et où est-ce qu'ils obtiennent toutes ces choses? D'où viennent toutes ces choses? Et leurs propres habits, leurs chaussures? Alors s'ils affirment que l'évangile est la religion des blancs, alors pourquoi est-ce qu'ils se habillent et ils se comportent, ils fument et boivent comme les blancs? Alors vous avez des jeunes gens qui ont des copines et des copains, des petites copines, des petits copains, et ça aussi c'est les blancs qui vous l'ont montré. Alors pourquoi est-ce que vous faites la même chose si vous affirmez que le christianisme est la religion des blancs? C'est triste quand on entend de telles affirmations. C'est triste de voir comment les Africains peuvent recevoir et accepter les mauvaises choses des Blancs et au contraire refusent l'Évangile en disant c'est la religion des Blancs. Mais nous voyons comment le Seigneur a été sauvé par le séjour en Afrique. Nous voyons aussi, à partir de Genèse, que les Philistins étaient les descendants de Canaan. Les Philistins, comme Goliath, eux étaient les descendants de Cham. Les descendants de Sodome et de Gomorre étaient les descendants, descendants de Cham, les Babyloniens aussi. Alors, cela me ferait plaisir si tu as une oreille pour entendre. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui affirmerait que les Africains sont les descendants de Cham. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Mais si tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus, alors tu rejettes la bénédiction et tu embrasses la malédiction qui repose sur les descendants de Canaan. Si l'Europe a été bénie, c'est parce qu'elle a embrassé l'Évangile, elle a accepté l'Évangile. Et alors, elle s'est mise à travailler et à être bénie de la part du Seigneur. Donc, Dieu a choisi Sem, et c'est par ses descendants que la voix de Dieu a été transmise. Donc, si tu ne embrasses pas ce que le Seigneur te donne, si tu ne restes pas fidèle à ce que le Seigneur t'a montré, alors tu passes à côté de la bénédiction du Seigneur. Si tu rejettes le Seigneur Jésus, si tu rejettes la croix, alors tu seras comme ceux, qui ont perdu la bénédiction et qui aujourd'hui tuent les chrétiens et persécutent les chrétiens, comme dans certains pays d'Afrique. Alors, il faut que l'Afrique retourne à Dieu, retourne à Jésus et ne coupe pas, ne se rejette pas la main tendue du Seigneur. Et même aux Cananéens, aux descendants de Canaan, je dis, reviens au Seigneur. Et alors tu verras que Jésus, tu réaliseras que Jésus a pris cette malédiction. Il a pris sur lui la malédiction qui a été prononcée. Alors reviens au Seigneur Jésus. C'est merveilleux. C'était merveilleux. J'espère que vous, jeunes gens, vous avez aussi écouté. On aurait pu continuer à écouter, on aurait pu continuer. Vous avez entendu comment Donc Lerlo a partagé et il nous aide à nous entraîner pour combattre ce bon combat. Et ceux qui ont un peu de discernement, nous pouvons voir, constater que la génération de Noé était la même, ou notre génération vit de la même manière que la génération de Noé. Noé a été sauvé parce qu'il a écouté, il a entendu, il a obéi à ce que Dieu, et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Alors sache, comme il était au temps de Noé, encore aujourd'hui, les gens se moquent. Alors, souviens-toi de cela. Tu ne devrais jamais te décourager. C'est pourquoi Dieu a permis que nous entendions ce message aujourd'hui. Parce que nous vivons dans ce même genre de génération. Les gens rejettent l'Évangile et alors il nous faut combattre ce bon combat de la foi. Mais rappelons-nous que la bataille appartient, la victoire appartient au Seigneur, même si nous devons combattre ce bon combat de la foi. Nous voulons prier. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Tu nous prépares, tu aiguises nos vies afin d'être capable, par ta grâce, de nous tenir fermement debout. Seigneur, accorde-nous une oreille pour entendre, que nous soyons là où toi tu nous veux. Seigneur, aide-nous, équipe-nous pour combattre, pour mener ce combat de la foi. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses rester avec nous, nous accompagner. Et prépare-nous, prépare nos cœurs aussi pour la prochaine réunion. Amen. Donc, lundi et mercredi, il n'y aura pas de Kids Life, puisque nous avons les réunions de jeunes. Et aujourd'hui, Dieu voulant, cet après-midi, à 3h, la prochaine réunion. Et ce soir, à 7h. Merci. Que Dieu vous bénisse.